9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour et bon dimanche. La chanteuse Barbara nous a quittés il y a 25 ans, le 24 novembre 1997. Et pour célébrer comme il se doit ce 25e anniversaire, je vous propose de passer toute cette émission avec elle, ses chansons et son biographe, Jean-François Kervéhan, l'auteur de Barbara, la vraie vie aux éditions Robert Laffont. Bonjour Jean-François, est-ce que vous êtes prêt pour ce retour en arrière?
Ah oui.
On va commencer tout de suite quand Barbara est devenue Barbara. Barbara est née le 9 juin 1930, mais elle a attendu d'avoir la trentaine pour devenir Barbara, avec une chanson comme celle qu'on va écouter tout de suite. Hein, « Dis, quand reviendras-tu ? »
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'allongue, je rêve, je frissonne.
Jean-François Kervéhan, la Barbara qu'on entend là a 34 ans. Hein, pour la première fois, elle ose enregistrer ses propres chansons. Jusqu'alors, elle chantait du Brel ou du Brassens. Pourquoi est-ce qu'elle a attendu si longtemps? C'est une auteure et une compositrice hors pair. Elle ne ressemble à personne. Et 34 ans, c'est déjà plutôt jeune hein, pour quelqu'un qui a toujours voulu chanter en plus.
Oui, mais ça n'empêche pas la peur et un contact avec les autres difficile et qui va être réglé par le chant. Mais elle ne le sait pas encore. C'est-à-dire que précisément, cette expression face à un public pour partager une émotion, c'est ce qui va la ramener vers la vie. Mais à 34 ans, elle est encore quand même bardée d'empêchements, d'angoisses, un physique ingrat. Elle passe vraiment pour très très laide. Moi, jeune, elle était très ingrate, mais elle est déjà belle, moi, je trouve. Mais elle avait vraiment la réputation d'être très laide. Et sa timidité confinait à presque une forme de prostration, quoi. C'était hors de question pour elle d'interpréter ses propres chansons qui sont un cœur ouvert sur sa propre vie. Et c'est pour ça aussi.
Vous racontez dans sa biographie la Belgique. Je le disais, elle a voulu débuter très jeune et elle a passé des années en Belgique. Et au départ, elle crevait de faim. Hein.
Ah oui, je pense que même par rapport à Piaf, dans les faubourgs parisiens, à chanter dans les cours d'immeubles, Barbara, c'est pire. Bon, il y a des choses dont on parlera, les traumatismes familiaux, la violence des rapports familiaux, l'inceste du père, on le sait aujourd'hui, mais elle en vient à claquer la porte de sa famille, elle part en Belgique chez un cousin russe qui a un cabaret, et là, pendant plusieurs années, elle est mineure encore à l'époque, elle a 20 ans, elle a vraiment rien qu'une salopette et un petit sac et des boucles d'oreilles, on lui propose la prostitution 3-4 fois. Et c'est une prostitution de la faim. Quand son cousin veut la faire coucher avec des clients, elle se barre avec sa valise. Elle a plus de quoi payer l'hôtel. On lui repropose de faire des passes. Enfin, on a l'impression, la misère de l'après-guerre, il faut voir aussi ce que c'était. Et c'est même elle qui, pour manger, se met sur le trottoir des prostituées à Bruxelles, qui la chasse parce qu'elle n'est pas du sérail. Et elle a quand même quelques clients avec lesquels elle va aller bouffer un steak, dit-elle dans ses mémoires, parce que ça n'a jamais abouti à la nuit d'amour, mais elle a vraiment été très très près, hein, vraiment.
La Barbara qui débute véritablement avec ses textes, ses chansons en 1964, c'est vraiment une chanteuse libertaire. Hein. On va l'entendre avec cette chanson magnifique qui s'appelle « Le bel âge ».
Il avait presque 20 ans, fallait voir. Sa gueule, c'était bouleversant, fallait voir pour croire. À l'abri du grand soleil, je l'avais pas vu venir. Ce gosse, c'était une merveille de la voir sourire. Voilà que timidement le Jésus me parle de tout, de rien, de ce moment. Tu parles, j'aime beaucoup les enfants,
j'ai l'esprit de famille, mais j'ai dépassé le temps de jouer aux billes. Il avait presque 20 ans et la peau si douce, j'ai cueilli du bout des dents la fleur de sa bouche et j'ai feuilleté pour lui un livre d'images qui n'était pas du tout écrit pour les enfants sages.
Jean-François Carvéan, quand on parle de chanteuse libertaire, forcément, me vient à l'esprit les frères Prévert. Elle avait passé une audition, hein, jeune, à la Fontaine des Quatre Saisons que tenaient Jacques, le poète, et Pierre. Mais la programmation était complète. On lui a proposé à la place de faire la plonge. Et elle a accepté. Hein, elle avait 21 ans.
Alors, elle a accepté parce que ça la nourrissait. Elle chantait dans des cafés pour un verre de vin et un sandwich, hein, coupé en deux. Donc elle a dit oui, et c'était un café, c'était pas un musical, c'était un cabaret, la grande époque, mais où il y avait les Charlie Chaplin venait, il y avait les gens les plus célèbres du monde, et Gréco, qui était déjà une star vraiment, occupait la scène pendant qu'elle, elle faisait la vaisselle, trimballait les caisses en cuisine. Elle a démarré là.
Oui, et vous racontez qu'elle se glissait au piano dès qu'elle pouvait.
Oui, parce que évidemment, enfin, c'est terrible quand on y pense, mais vraiment, moi, quand j'ai fait la biographie de Barbara, je la connaissais un peu puisque je l'aimais, je la suivais depuis longtemps, mais chaque touche de piano, chaque moment de sa vie, vous avez un roman derrière, et on la voit tellement, c'est que l'après-midi, la file, c'est Cendrillon à la Souillarde, hein, qui se tapait la vaisselle et à qui les mecs, derrière, elle a fait une bronchite, elle a commencé à faillir mourir la première fois là, elle avait un peu plus de 20 ans, dans le froid de l'arrière-cuisine du cabaret des Prévert. Et l'après-midi, évidemment, il n'y avait personne et elle se ruait au piano, elle chantait ses chansons. Et les frères Prévert la regardaient et ils faisaient partie de tous ces gens qui la trouvaient sympa, un peu ingrate, mais gothique et impraticable en gros, vous voyez. On la voyait pas. Ce qui fait d'ailleurs que quand elle a du mal à se représenter, quand l'écluse va s'ouvrir et qu'elle va commencer à chanter ses textes, elle revient de loin quand même, elle a été barrée un peu de partout et c'est ça aussi qui va ralentir, mais alors la floraison va être tardive mais très très belle, hein, quand même.
On fait une pause, Jean-François Carvéan, on se retrouve tout de suite après, on continue de parler de Barbara.
9h-10h, c'est arrivé demain avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On commémore ce matin le 25e anniversaire de la disparition de Barbara avec Jean-François Carvéan, son biographe, l'auteur de Barbara, la vraie vie, chez Robert Laffont. Barbara est une icône homosexuelle, mais une icône très différente de Dalida ou Sylvie Vartan, hein, dans leur robe laméor. Et j'ai souvent posé la question à des homosexuels qui avaient vécu les années 60. Alors, demain, pourquoi Barbara ? Et ils m'ont presque tous cité cette chanson, Le mal de vivre, qui décrivait très bien, me disait-il, ce qu'il pouvait éprouver parfois à cette époque. On l'écoute, Le mal de vivre.
Ne préviens pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille, au creux des reins. Le mal. Fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein, c'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient.
Alors Jean-François Carvéan, verdict, pourquoi est-elle devenue une icône homosexuelle, Barbara ? Est-ce que cette chanson y est pour quelque chose ?
Bah écoutez, si vos amis le disent, c'est une vision un peu dépressive de l'homosexualité qui date un peu, parce que c'est un mal de vivre, je pense qu'il est assez bien partagé. Remarquez, moi je suis gay, hein, je l'étais déjà quand j'avais 16 ans, quand j'ai rencontré Barbara, alors est-ce que ça m'a touché ? Ça m'a pas... Oui, pas plus que le petit bois de Saint-Amand dans son rayonnement serein, je pense que... Il y a une perfection esthétique chez Barbara, et qui au fond existe aussi chez les grandes femmes, les divas totémiques, féministes, féminisées, comme ça. Barbara, il y a une perfection esthétique, et je pense que c'est ça aussi qui peut plaire. J'étais frappé, moi, en écoutant vos deux chansons, là, tout à coup, à brûle pour point, on est devant des petits objets parfaits, facettés parfaits. Quand même, dans la
oui,
forme.
C'est le style Barbara, précieux, absolument. Mélancolique, mélodieux.
Précieux, pas toujours, parce que parfois elle casse la vitre aussi. Enfin, elle travaille, elle, avec ses contraires. Enfin, elle cherche son contraire tout le temps, elle. C'est une très grande artiste. Enfin, moi, excusez-moi de dire une baliverne, mais on oublie de le dire. C'est ça aussi qui vous casse. Même si vous êtes adolescent, gay, pas gay, vieux, si vous avez été à Pantin ou pas à Pantin, quel que soit votre horizon, au fond, on s'y retrouve. Et même encore aujourd'hui, il y a cette perfection. À faire circuler une émotion à travers son instrument, son zinzin, qui était la chanson.
Le Pantin auquel vous faites allusion, c'est son triomphe, hein, on y reviendra. C'est Pantin 1980, les gens viennent en foule pour l'écouter, alors qu'on ne l'avait pas entendu depuis longtemps. Mais restons sur ce mal de vivre qu'elle va incarner pendant très longtemps. Elle était pourtant aimée, Barbara. Elle ne cesse de chanter qu'elle est aimée, et pas qu'un peu, et pas par un seul. Alors pourquoi ce mal de vivre qui a l'air de l'accompagner toute son existence ?
Oui, alors, l'origine du mal de vivre, franchement, même riche, beau et célèbre, vous pouvez quand même trébucher sur ce genre de problème. Hein. Il est clair qu'elle, elle avait quand même un sac un peu chargé. Hein. Quand on voit une jeune fille qui se trouve pas dans la société, elle veut être pianiste, comme beaucoup d'enfants rêvent d'être reine, fée ou les garçons pilotes de course. Elle voulait faire du piano. La famille l'entendait pas trop de cette oreille. Et puis surtout, il y a une succession de traumatismes. Il y a la guerre, elle est juive. Le père est instable, il y a des problèmes financiers terribles, parfois ils quittent des villes parce qu'ils peuvent pas payer le boucher, puis ensuite c'est l'étoile jaune qu'ils ne veulent pas porter, et à 11, 12 ans, 41, elle est déjà réfugiée, petite juive à Tarbes, cachée, il y a l'inceste qui va durer jusqu'à 15 ou 16 ans avec son père. Elle se trouve pas non plus dans la société, ce traumatisme l'isole, elle a des problèmes de communication énormes, il y a des fugues, elle part en Belgique, je vous l'ai dit, où là elle se retrouve carrément sur le pavé, sur le trottoir, donc vous voyez, la barque est très chargée chez Barbara. Donc le mal de vivre, il peut s'expliquer là par des moments où très franchement, elle ramassait des paquets de biscuits par terre à Bruxelles pour manger les deux derniers gâteaux au fond du paquet, vous voyez. Hein. Donc il y a des moments où vous sentez le sol pas très moelleux sous vos pieds, quoi. Et voilà. Déjà rien que ça, elle aurait pu avoir des crises de désespoir.
Et puis il y a la Barbara chanteuse, alors qu'on imagine adorer. Je me souviens la première fois que j'ai entendu cette chanson, j'étais adolescent. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Je trouvais que c'était la plus belle déclaration que puisse vous faire une femme. Hein. Elle en a connu d'autres, mais c'est en vous attendant, et elle vous a quitté, mais elle est revenue. Et puis plus tard, on m'a dit, ben non, en fait, elle ne parlait pas des hommes qu'elle avait aimés, elle parlait du public. Moi, quand je l'écoute, je continue de penser qu'elle parle à un homme et un seul extrait.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage à peine vus déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. Faisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Alors, Jean-François Carvéan, verdict, c'est bien du public qu'elle parle, à votre avis ?
Non, mais c'est de vous, Frédéric, et ce n'est que de vous, et ce n'est que de moi, et ce n'est que du voisin, et ce n'est aussi que les types ou les femmes qui étaient au 8e rang. Ça, c'est ce qu'elle appelait l'homme à 1000 bras. C'est-à-dire que là, la conversion, elle est faite. Hein. On est en 69, c'est Bobino 4. Elle a percé tous les plafonds, elle est installée vraiment comme une diva et ça va durer. Vraiment, ça va durer. Au point d'ailleurs qu'elle va paniquer. Hein. Et juste pour vous dire, c'est que De Jacques, qui était son impresario, très grand directeur artistique, lui dit, bon, écoute, Bobino 4, faut faire un petit truc. Elle dit, ben quoi, je ne pompe pas les chansons, comment on distribue des joujoux dans une machine. Et alors elle s'y met, sous le conseil de Jacques, il faut faire un petit plus par rapport à un disque qui vient de sortir. Elle réfléchit, elle fait... Voilà. Et c'est à la fois un chanson. Homme et c'est à la fois tous les hommes, c'est l'homme aux mille bras, quoi. L'homme aux mille bras derrière le rideau rouge. C'est vous, c'est moi, c'est nous et ça dure depuis 50 ans.
On fait une pause et on continue de parler de Barbara et de ses hommes, parce que c'est très important.
Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Barbara nous a quittés il y a 25 ans. On en profite pour passer toute cette heure avec elle, ses chansons et son biographe Jean-François Kervéhan. Elle a toujours aimé, Barbara, se présenter dans ses chansons comme une femme à homme, hein, comme il y a des hommes à femmes. Il y aurait des femmes à hommes.
Ouais,
voilà, et on va écouter...
On dit des croqueuses d'hommes. Hein.
Oui, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette chanson formidable qui s'appelle « Mes hommes ».
Ils marchent le regard fier, mes hommes. Moi devant et eux derrière, mes hommes. Et si j'allonge le pas, ils me suivent pas à pas. Je ne leur échappe pas, mes hommes, mes hommes. Pour que je sois, ils sont là, mes hommes. Je n'ai qu'à tendre les bras, en somme. Je les regarde venir, fier de leur appartenir. C'est beau de les voir sourire, mes hommes. Moi qui suis fille des brumes en somme, de la nuit et de la lune, tout comme. Quand j'arrive le teint clair, moi devant et eux derrière, je comprends bien que les gens s'étonnent, s'étonnent. Car ils viennent de Tunisie, mes hommes. Marseille, Toulon, le midi, mes hommes. Ils marchent avec insolence, un petit rien dans la hanche, ça ressemble à une danse, mes hommes. Ils ne m'appellent pas madame, mes hommes, mais gravement ils me nomment patronne. Ils se soumettent à ma loi, je me soumets à leur loi, que c'est tout d'obéir à mes hommes.
Il y a peut-être une ambiguïté là aussi, hein, comme dans Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Peut-être qu'elle parle de ses amants, mais peut-être aussi qu'elle parle de ses musiciens, tout simplement.
Mais parce que c'était les mêmes. Enfin, en tout cas, il y a le compagnon de vie, le compagnon de scène, qui était Roland Romanelli, qui doit être sur scène là, derrière l'accordéon. Où, et c'était, ça a été presque le mari de Barbara, hein, Roland Romanelli. Et... par extension, c'est aussi les jeunes hommes dont elle parle, dans Le bel âge, dans La photo est bonne. C'est l'idée pour cette femme que l'amour, c'est pas une construction, malheureusement, c'est un homme qui passe et avec lequel ça commence. Voilà, c'est ça l'amour pour Barbara. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est une femme à homme, comme vous dites. Alors, ça se passe bien, ça se passe mal, mais ça se passe. Et l'intensité du moment prime sur la construction possible auquel elle a renoncé, parce que tout en étant une grande amoureuse, elle a reconnu elle-même qu'elle n'était pas douée pour l'amour. Et au fond, c'est ce qu'elle chante aussi, hein. C'est qu'elle a accès à l'amour et elle en connaît vite la sortie. Voilà. Et ces chansons racontent encore ce paradoxe.
Il y a des hommes parfois qui se révoltent, deux d'entre eux notamment, et pas des moindres, Georges Moustaki et Serge Reggiani, qui ont tous les deux été l'amant de Barbara et qui lui doivent beaucoup.
Pas Moustaki.
En tout cas, il lui doit beaucoup, Moustaki, même s'il n'a pas été
amant. Non, quand elle dit mes hommes qui marchent le pas derrière, ils ne sont pas tous des amants. Il y en a affinité, vous voyez, mais pas tous.
En tout cas, ces deux-là, qui lui doivent beaucoup, lui adressent soudain, en 1968, une chanson d'une méchanceté terrible.
Madame Nostalgie, depuis le temps que tu radotes et que tu vas de porte en porte répandre ta mélancolie. Madame Nostalgie, avec tes yeux noyés de brume et tes rancœurs et tes rancunes et tes douceâtres litanies. Madame Nostalgie, Tu causes de la fragilité des roses. Je n'entends plus ce que tu dis. Madame Nostalgie, depuis le temps que tu m'accables, j'ai envie d'envoyer au diable ton mal d'amour si mal guéri. Madame Nostalgie, tu pleures sur un nom de ville et tu confonds, pauvre imbécile, l'amour et la géographie. Madame Nostalgie.
Alors Jean-François Carvéon, aujourd'hui on est habitué, hein, ça s'appelle un clash, ça existe beaucoup dans le rap, mais à l'époque c'était le début. Comment l'a-t-elle pris, Barbara ?
On ne peut plus mal. Vraiment. C'est-à-dire qu'elle avait beaucoup d'humour sur elle-même, à condition qu'elle en ait le contrôle, quoi. Et puis là, c'est pas seulement drôle, hein. C'est une paire de gifles. Et en plus, tout le monde s'en est aperçu. Je veux dire, la géographie, c'est Göttingen, c'est Nantes. Enfin, c'est toutes ces chansons-là. Elle est crucifiée comme un papillon. Et en plus, elle nous fait chier. Excusez-moi, mais c'est exactement ce que disent ces gens qui sont un peu plus jeunes qu'elle, qui ont marché trois pas derrière elle, qui ont dû se faire, je sais pas, des séances de shopping, qui ont dû l'écouter parce que, elle était très, très, très possessive. Et Reggiani, non seulement il l'a chanté, mais il venait de le faire. C'est-à-dire qu'il est rentré chez sa femme et il n'en pouvait plus. Alors qu'elle l'aimait. Et elle a fait beaucoup pour lui. Elle l'a lancé en tant que chanteur. Et on imagine les deux gars chez Moustaki grattant une guitare. Et tout à coup, accouchant de la chanson, Moustaki donnait des chansons à Reggiani. D'ailleurs, c'était sous l'impulsion de Barbara que leur amitié créative est née. Et tout à coup, les deux marlous, ils la chantent. Il la donne au public. Et c'est vraiment comme s'il balançait un seau d'eau sur la dame brune, quoi. Elle l'a très, très mal pris.
Elle leur a reparlé par la suite.
Quand il dit rancune, rancœur et rancune. Ah non, mais Reggiani, non, mais c'est très simple. Il y a, dans la tournée en Italie qui a suivi la rupture avec Reggiani, elle avait interdit qu'on prononce son nom. Parce qu'il faisait ses premières de tournée. Et il y a un musicien, malheureusement, qui a évoqué Reggiani, il s'est fait virer. Elle l'a viré. Elle a dit c'est terminé, je vous avais prévenu.
Ouais.
Bah, oui. C'était ça aussi, Barbara. Vous voyez, une diva, quand elle vous a dans le nez, ça fait mal. Hein. Pas tous les jours dimanche. La vie était merveilleuse, je pense, avec cette femme. Mais il y avait des moments de saignée, hein, il n'y a aucun doute.
Il faut dire que la chanson est vraiment méchante. Et je pense qu'elle leur a répondu. Elle leur a répondu la même année. Alors, je ne sais pas si la chanson Le Soleil Noir est sortie avant ou après Madame Nostalgie. Mais pour moi, c'est la réponse.
Mais oui.
Elle leur dit qu'on peut avoir la rage de vivre et le désespoir. On l'écoute. Juste après une pause.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Barbara ce matin, ses chansons et son biographe Jean-François Carvéan. On est en 1968. Serge Reggiani et Georges Moustaki viennent de sortir Madame Nostalgie, une chanson extrêmement cruelle sur Barbara. Et la même année, avant ou après, je ne sais pas, mais pour moi c'est sûr, c'est la réponse. Elle chante Le Soleil Noir. Écoutez bien, elle leur répond exactement.
Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie, plus jamais du ciel lourd, jamais des matins gris. Je suis sortie des brumes et je me suis enfuie sous des ciels plus légers, pays de paradis. Oh que j'aurais voulu vous ramener ce soir, des mers en furie, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres. Et vous ferez le bruit d'un heureux tintamarre, des coquillages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les vagues mille fois ramenés, des rouges éclatants, des soleils éclatés dont la feu brûlerait d'éternels étés. Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire. Et je reviens de loin, et mon soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, et vous pouvez me croire. Je reviens fatigué, j'ai le désespoir. Légère, si légère, j'allais court vêtue. Je faisais mon affaire du premier venu. Et c'était le repos, l'heure de nonchalance. À bouche que veux-tu et j'entrais dans la danse. J'ai appris le banjo sur des airs de guitare. J'ai frissonné du dos, j'ai oublié Mozart. Enfin j'allais pouvoir enfin vous revenir avec l'œil à longue et vague de souvenirs. Et j'étais l'ouragan et la rage de vivre. Et j'étais le torrent et la force de vivre. J'ai aimé, j'ai brûlé, rattrapé mon retard. Que la vie était belle et folle mon histoire.
Jean-François Carvéan, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la réponse, non ?
Mais écoutez, il faudrait regarder dans la chronologie exacte, mais j'ai jamais lu ce lien, je ne l'avais pas fait moi-même, mais vous avez probablement raison, parce que la réponse est très précise et en même temps, elle est têtue, c'est-à-dire elle est tout à fait capable de danser dans les coquillages, avec des sons exotiques, de s'oublier. Et ce qui la ramène à la mélancolie, c'est la noirceur de nos destinées, hein. C'est notre pauvre condition ici-bas.
Voilà, j'ai tout essayé.
J'ai fait semblant d'y croire.
J'ai tout essayé, mais mon soleil est noir.
Absolument.
Ouais, voilà.
Ouais. Donc c'est une belle réponse aux deux Marlou. Hein. Ouais. Non, c'est vraiment bien. Ouais, c'est ça.
Exactement. On en arrive à son plus grand succès, un slow d'enfer, arrangé par Michel Colombier, qui devient un tube énorme. On danse dessus chez Castel en 1970. C'est dans tous les nightclubs. C'est L'Aigle Noir.
Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé. Il m'était revenu.
Quand on pense à tous les gens qui ont dû s'embrasser sur cette chanson, en dansant, serrés l'un contre l'autre, et puis des années plus tard, on leur annonce qu'elle parlait du nazisme qui a traumatisé son enfance, et puis non, on nous dit qu'elle parlait de l'inceste que lui avait fait subir son père. Alors qui faut-il croire ? Pour moi, la batterie en dit long, cette chanson est faite pour danser, dans les nights en plus, mais de quoi parle-t-elle ?
Oui, elle parle du sexe de son père, enfin Depardieu a mis les pieds dans le plat, vous avez des phrases sur le cou, au niveau psychique. Analytique aujourd'hui, c'est sûr, mais par contre, ça s'est pas du tout vu à l'époque. Et c'était même, on dansait, c'était le slow de l'été sur les plages, hein, carrément. Hein, non. Et je suis même pas sûr qu'elle, elle y ait pensé en plus. Et c'est très troublant parce que c'est une chanson qui était pour elle, elle-même la considérait comme beaucoup trop hermétique. Qu'est-ce que c'est que ce gros oiseau avec un saphir sur la tête qui bouge ses plumes? Enfin, elle-même, elle se trouvait un peu détraquée, quoi. Elle avait quand même une certaine lucidité. Elle se dit, je peux pas vendre ça. Qui c'est qui va prendre ça? Elle avait ça dans un tiroir. Mais c'est une chanson auquel elle tenait. Et puis, dans ce fameux double album, c'est un album juste avant 70, il y a un trou, il en manque une. Donc, on fait pas une chanson comme ça, hein, c'est pas aussi évident. Donc, elle sort ce truc et puis elle le finit, un coup de bleu, un coup d'aile, et on recommence. Et elle peaufine admirablement. Elle se dit, bon, bah voilà, ça fera la fin. C'est le plus gros succès commercial de sa carrière. Ce qui est dingue, avec plusieurs transpositions, avec un niveau de lecture qui est dingue, qui a été d'ailleurs ouvert par ses mémoires, où l'inceste a été posé, un livre interrompu par sa mort, elle a vraiment posé des mots sur ce traumatisme. Et c'est fou que ça a été un succès public, le seul de sa carrière, qui est une belle, très belle carrière, mais elle était, comme on disait, au sommet des parades pendant plusieurs semaines d'été, slow d'été sur les plages, en mangeant des sorbets et en remettant son bob sur la tête, et L'Aigle Noir, l'horreur de son père à Tarbes qui rentre dans l'inceste, avec qui ruine la vie d'une petite fille de 10 ans et qui sans doute aussi la révèle en tant qu'artiste, parce que sur cette déchirure, elle a construit franchement cet univers parfait de son art, de son expression.
Autre chanson sur l'enfance en 72 avec des guitares électriques, c'est Perlin Pimpin.
Pour qui, combien, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Qui priez-vous? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi, s'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour des forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfant.
C'est drôle de penser qu'au début des années 70, ce sont nos grands interprètes, au fond, qui utilisent le mieux la musique pop. Hein. Léo Ferré dans cet extra, Aznavour dans Les plaisirs démodés ou Barbara dans Perlin Pimpin. On fait une pause, on se retrouve juste après.
Et celui du Perlin Pimpin en le square des Batignolles.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Barbara ce matin, Barbara qui nous a quittés il y a 25 ans. Nous sommes avec Jean-François Kervéhan, son biographe, et vous avez insisté avant cette émission pour qu'on écoute aussi des chansons gays, hein, parce que vous l'avez dit, Barbara a aussi chanté le bonheur, la joie de vivre, et vous m'avez cité tout de suite Au Petit Bois de Saint-Amand.
Certainement.
Ben la voilà.
Y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand.
Moi, je pas connu Barbara, bien entendu, mais vous non plus, je crois. Enfin, vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas connu.
Alors moi, je l'ai vu beaucoup à Pantin, et non, je ne l'ai pas connu. Connu, non. Et
voilà, mais j'ai l'impression qu'elle était très rigolote.
Dans les phases rigolotes. Elle était beaucoup moins dans les phases fermées. Hein. Elle le dit elle-même. Hein. Elle dit, mais je viendrai pas, non, j'irai pas. Moi, je me souviens, elle s'est fâchée avec Sagan. Je connaissais des gens qui l'avaient connue. Tout était merveilleux mardi, mercredi, jeudi, et vendredi, c'était une catastrophe. Voilà, ça se retournait. Alors, il fallait supporter, hein, c'est une course d'obstacles. Il y avait les jours avec et les jours sans. Les jours avec, elle devait être à ce temps, elle était à pisser de rire. Mais d'ailleurs, il y a des interviews sinistres. On dit, mon Dieu, est-ce que ça doit être terrible? Et puis, il y a des interviews où elle est drôlissime, drôlatique. Elle fait le numéro, elle y va à fond. Elle est drôle comme tout. C'était pas tous les jours.
C'est vers 45 ans, je crois. Elle a une mauvaise période. Elle doute. Elle a plus d'inspiration tout à coup.
Bah, c'est-à-dire que après avoir chanté à un public Bobino 4, Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. On est quand même en 69 dans un Olympia assez bourgeois. On n'a pas cassé les fauteuils hein, pour elle. Mais il fallait quand même couper la lumière pour que les gens s'en aillent. Et elle s'est dit, bon, j'y suis arrivée. Brel va s'en aller. Précisément sur la question de la mécanique douteuse sans authenticité, lui va partir aux Marquises. Elle est très proche de Brel, ils se parlent beaucoup, beaucoup. Et elle se dit, mais moi c'est pareil, je vais faire le singe sur scène, à animer des concerts auxquels je ne crois plus. Elle est morte, elle en mourrait. C'est une femme d'intégrité. S'il n'y a pas d'intégrité, elle se flingue. Il faut que ça soit là. Et en effet, elle va douter au point de dire qu'elle va arrêter le récital. Et puis finalement, elle va y revenir. Mais elle va chercher à s'échapper. Ça ne va pas marcher. Et en effet, elle va traverser une période de doute dont elle va sortir, mais majestueusement, à Pantin en 81, où là, franchement, ça va tout crever, tout dépasser.
Avant d'arriver à Pantin, je voulais faire un petit passage par l'Absinthe, chanson composée par Frédéric Botton, mais les paroles sont de Barbara. Et là, on voit la pure artiste Barbara en communion hein, avec d'autres purs artistes comme Rimbaud ou Verlaine.
Il buvait de l'absinthe comme on boirait de l'eau. L'un s'appelait Verlaine, l'autre c'était Rimbaud. Pour faire des poèmes, on ne boit pas de l'eau. Toi tu n'es pas Verlaine, toi tu n'es pas Rimbaud. Et quand tu dis je t'aime, oh mon Dieu que c'est beau, bien plus beau qu'un poème de Verlaine ou Rimbaud. Pourtant que j'aime entendre encore et puis encore la chanson des amours quand il pleut sur la ville, la chanson des amours quand il pleut dans mon cœur et quand ma lame grise et que les vieux vents pleurent. Pourtant je veux l'entendre encore et puis encore. Tu sais que le m'enivre comme le bateau ivre, la chanson de ceux-là qui s'aiment et qui en meurent. Et si j'ai l'âme grise, tu sécheras mes pleurs.
C'est fou, comme le français de Barbara est châtié. Elle écrit des paroles qui sont alors peut-être pas dignes des poèmes de Rimbaud ou de Verlaine, parce qu'eux n'avaient pas besoin de musique, mais elle écrit très très bien.
Eh oui. Et elle écrit classique, hein. C'est un peu comme Jean Genet, c'est-à-dire comme elle s'est pas attardée à l'école. Elle a un modèle, elle a une langue parfaite, elle a une vision esthétique sonore du français. Et ce qui me frappe en écoutant les chansons que vous enchaînez, c'est que cette facilité qu'elle a de vous prendre à chaque fois, c'est-à-dire en trois tonalités, deux mots, elle arrive au bord, elle vous attrape et vous partez avec elle, c'est aussi, alors c'est évidemment son talent, mais c'est aussi c'est un signe de générosité. L'obligation qu'elle se donne de vous saisir quoi qu'elle amène. Et je pense que cette précaution, et ça passe par le français, hein, ça passe par cette perfection aussi du français dans la langue classique, elle l'applique à ses chansons. Vous êtes au bord du chemin, je vous ramasse. Vous avez 15 ans, vous avez 70 ans, vous avez vécu ci ou ça. J'arrive, regardez, c'est joli, vous montez, mon zinzin. Elle disait même pas mes chansons. Hein. Elle se détestait, femme de lettres. Elle dit, vous montez, je vous emmène, on va faire un tour. Alors là, c'est Rimbaud, c'est Verlaine, après c'est les Soleils Noirs, c'est où vous voulez, le petit bois de Saint-Amand. Mais cette facilité dans le contact de qualité et en même temps populaire, c'est sillon. C'est sillon. Moi, à chaque fois, je suis stupéfait par ça.
Vous étiez donc à Pantin en 81, Jean-François Kervéhan, là c'est le triomphe. Et puis François Mitterrand vient d'être élu président de la République le 10 mai. Et elle arrive sur scène avec une chanson, formidable musique, mais les paroles sont d'un kitsch. On va l'écouter.
Regarde, quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé, c'est indéfinissable. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. Regarde ces fanfares et musique, teintes amères et magiques, féerique. Regarde. Moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent danser, leur vie recommencer. Regarde, on pourrait encore y croire, il suffit de le vouloir avant qu'il ne soit trop tard.
Jean-François Kervéhan, cette chanson existe encore parce qu'elle est sur l'enregistrement public de Pantin 81, ouais. Mais elle ne l'a jamais gravée en studio. Hein. Elle a dû se rendre compte qu'elle était peut-être allée un peu loin.
C'est peut-être pas son meilleur texte. Hein. On dirait un peu une chanson pour une boisson revitalisante. Moi, j'étais là, j'avais 19 ans. J'avais voté Mitterrand comme toute la salle et c'est passé sans problème. Elle était en poncho, elle lisait le texte au bord du piano. C'était la fin, on l'avait déjà rappelé pendant 20 minutes. Elle était en poncho, c'est une passionnaria de mai 81, vive la rose, c'était pas le moment de Marguerite Yourcenar, vous voyez, c'était autre chose, c'était la militante, quoi, voilà. Et ben nous, ça a marché, mais comme sur des roulettes. D'ailleurs, vous voyez, on l'a applaudi pendant la chanson, avant, après.
Mais la musique est très belle, hein.
Ah, toujours. C'est l'habit rouge, enfin, c'est tout son comté comme ça, pimpon, j'arrive, quoi. Elle adorait ce musical, elle a aimé le musical, hein. C'était une meneuse aussi, hein. Faut voir ce qu'elle faisait sur scène. Moi, je l'ai vue au Châtelet. Un concert où elle n'avait absolument plus de voix, hein. C'est vraiment là où elle avait des piqûres et tout. À la deuxième partie, elle est remontée en scène, elle a levé les mains, elle a fait soulever tout le Châtelet, en 2 minutes. Elle avait chanté comme un cochon d'Inde. Franchement, je vous assure que c'était vraiment un des plus mauvais soirs. Mais ça passait quand même. Ça, parce qu'on les connaissait par cœur, les chansons, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles. Et c'était depuis Pantin, quand vous avez dit « c'était un triomphe ». Après, c'est devenu la grand-messe. Hein. C'était vraiment, c'était la messe, quoi, vraiment. Et d'ailleurs, ça marchait aussi, pas de problème.
Et on a fini par lui donner la victoire de l'artiste féminine de l'année à 64 ans. Et on a refait le coup à 67 ans, de nouveau, victoire de l'artiste féminine de l'année. Voilà, elle nous a quittés en 1997, il y a exactement 25 ans. Et je suis bien content d'avoir passé une heure à l'évoquer avec vous. Merci, ah oui. Jean-François Kervéhan.
Eh ben, c'était très agréable de faire le tour du bois de Saint-Amand. Il n'a pas pris une ride, ce petit bois, et on l'emmènera avec nous.
Et, voilà, et je renvoie voilà.
Merci à vous. Alors,
à votre livre, Barbara, la vraie vie. C'est paru en 2017 chez Robert Laffont.
Europe 1.
C'est arrivé demain et parvenu à son terme. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. On se retrouve samedi prochain à 9h. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, animé par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour à vous, cher Frédéric.
Qui est votre invité ?
Notre invité, c'est le ministre des Transports, Clément Beaune. Et pour l'interroger, je serai accompagné de Nicolas Barré et de Mathieu Boccoté.
Eh bien, bonne émission.
Europe 1.